Le MAPIC, le salon international de l'immobilier commercial. Du 30 novembre au 2 décembre 2021, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec TK Elevator sur Radio Immo.
Bonjour à vous, si vous nous rejoignez en direct du Palais des Congrès et des Festivals de Cannes à l'occasion de l'édition 2021 du MAPIC. Alors depuis ce matin, nous enchaînons les interviews, nous avons été à la rencontre des foncières, à la rencontre des enseignes. On va maintenant parler d'un autre sujet qui est, on va le voir, bien connecté au commerce, c'est celui du loisir. Et pour le faire, je suis avec un spécialiste du loisir, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Bonjour Vincent Philippe.
Bonjour Johanna, merci de cette invitation.
Vous êtes le fondateur de Fun Fair City qui est un observatoire du loisir en ville. C'est comme ça qu'on peut le résumer ?
Exactement, c'est la rencontre de l'univers de la ville et de l'univers des loisirs à travers les lieux qui sont générés pour accueillir des expériences. J'ai créé ça il y a 4 ans puisque j'ai une formation initiale d'aménageur et d'urbaniste sur la fabrique de la ville, les nouveaux quartiers, le renouvellement, et une passion depuis l'enfance pour toutes les grands lieux du loisir, les attractions, les grands 8, voilà. Tout ce qui concerne de près ou de loin un parc de loisirs m'a toujours fasciné, m'a toujours intéressé, et j'ai essayé de rapprocher un peu les deux univers par intérêt professionnel et personnel, et puis aussi en constatant que finalement il se passait beaucoup de choses. On était encore il y a 5 ans, la folie des escape games était en cours, beaucoup de nouveaux lieux se créaient, les salles d'escalade également, trampoline park, on commençait à voir un peu de réalité virtuelle. Il se passait pas mal de choses, on voyait des prémices dans les projets d'aménagement, les projets urbains, les centres commerciaux commençaient à marquer un peu plus leur rapprochement, c'était pas complètement nouveau, mais ils marquaient plus leur rapprochement. Voilà, donc je me suis dit, c'est l'occasion de rapprocher vraiment les deux univers et d'observer plus concrètement qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, où ça se passe et avec qui. Voilà comment ça démarre.
On va en parler dans quelques instants. Juste avant, je voudrais qu'on fasse un petit point définition avec vous. Le loisir en ville, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est uniquement la fête foraine qui se pose avec sa grande roue, ou est-ce que c'est aussi des loisirs sportifs, du cinéma, du théâtre, peut-être des zoos, j'en sais rien ? C'est tout ce panel-là ?
Oui, c'est tout ce panel-là, et c'est vraiment dans sa grande diversité que c'est intéressant à suivre aujourd'hui. C'est vrai qu'on a coutume de regarder un peu ce qui se passe du côté du loisir sportif, du côté du loisir festif, du loisir culturel, du loisir plutôt traditionnel, mais sans avoir une approche assez globale, assez générale de tous les lieux que ça génère. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le lieu, qu'on soit dedans, dehors, qu'on soit couvert ou pas, qu'on soit dans un lieu public ou un lieu privé, qu'on soit gratuit, payant, temporaire, comme les fêtes foraines, effectivement, ou plus pérennes. Donc, toutes ces dimensions vont vraiment être intéressantes parce que chacune va apporter quelque chose. Effectivement, la fête foraine est une bonne définition. C'est une des premières manifestations, une des premières formes de loisirs dans la ville. C'était itinérant, ça se déplaçait. C'était un grand pourvoyeur de technologie. À l'époque, les gens n'avaient pas de vélo. Alors, ils pouvaient faire un tour de vélo sur un manège vélocipédique qui permettait de mesurer à ces technologies-là. Depuis, bon, il s'est passé autre chose. Mais il y avait cette vecteur-là. Mais les grandes expositions universelles ont aussi été des vecteurs de création de loisirs en ville. Les grandes roues. La première grande roue est apparue à Chicago à l'occasion d'une exposition universelle. Aujourd'hui, c'est un classique absolu du divertissement, en particulier urbain maintenant. Donc oui, c'est vrai que c'est beaucoup de thématiques, et de plus en plus on a affaire à des véritables enseignes de loisirs qui sont vraiment pérennes, qui sont installées. Je pense naturellement aux salles d'escalade qui ont maintenant pignon sur rue, en vitrine même, on peut voir les dernières vraiment en vitrine. Ça devient des lieux de vie, on y va pour sa sortie du week-end, on va bruncher et faire un peu d'escalade de bloc, un peu d'un sauna derrière, etc. On passe du bon temps. Donc les loisirs prennent beaucoup plus de place par rapport à ça. Donc aujourd'hui, c'est effectivement tout ce qu'on peut avoir entre une fête foraine, qui est toujours là, une salle de loisirs sportifs ou culturels, et puis une fusion, une hybridation qu'on voit de plus en plus avec les grands lieux du savoir, par exemple, qui vont utiliser de plus en plus le loisir pour leur médiation. L'exemple du Louvre avec Barba Papa il n'y a pas longtemps, pour essayer de créer un lien avec...
Qu'est-ce qui s'est passé au Louvre avec Barba Papa ?
Expliquez-nous. Toute une expérience, sans rentrer dans le détail, mais il y a eu un rapprochement qui a été fait sur une médiation à réaliser entre les œuvres. L'idée était de créer le premier contact entre un enfant et une œuvre par cet intermédiaire un peu particulier. Alors, je n'ai pas tous les détails, je n'ai pas eu l'occasion de le visiter, mais une manière de répondre un petit peu à la problématique de voilà, comment on fait pour intéresser un enfant à l'art, autrement qu'en lui disant c'est de l'art, c'est important, faut regarder. Non, c'est comment on va lui faire prendre conscience de ça. Il y a plein, c'est un exemple particulier, mais sur tout ce qui est gamification, on arrive à trouver vraiment des exemples avec son téléphone portable, on va faire une chasse au trésor dans un musée, ça va nous inciter à aller voir des espaces qu'on n'aurait pas vus autrement. On va se poser des questions, on va être invité à lire pour trouver une énigme.
Faire rendre les choses ludiques.
Exactement, c'est ce côté ludique est aujourd'hui pour beaucoup de lieux une médiation pour les activités aussi professionnelles, les team building qui vont être faits de manière ludique. Donc aujourd'hui, que ce soit sur des lieux purs ou rapportés à un lieu existant, l'émergence de ces activités de loisirs, ces expériences est importante et concerne vraiment toutes les activités de la ville.
En tout cas, je pense qu'on sera d'accord pour dire que le loisir connaît un essor à peu près sans précédent. Nous faisions une émission spéciale justement avant MAPIC qui concernait le loisir. Alors, le loisir rebâtit les cartes de l'immobilier, c'était son nom. Et je vous invite, si vous n'avez pas encore écouté, à la retrouver en podcast sur Radio Immo, où nous avions quelqu'un de la BPI qui nous disait que les projets concernant le loisir n'avaient jamais été aussi nombreux. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez également? Et deux, est-ce que vous pensez que la crise du Covid, qui a été tellement anxiogène, a un peu exacerbé cette envie, ce besoin de loisir?
Aujourd'hui, oui, l'observation qu'on peut faire avec la veille multithématique que je réalise, oui, elle montre vraiment qu'il y a de plus en plus de lieux, des lieux de plus en plus diversifiés, toutes les tailles, tous les types d'expériences. C'est important de le signaler, mais beaucoup de lieux qui ont ouvert lors du dernier déconfinement, c'était début juin, c'était leur première ouverture. Donc beaucoup de concepts, d'idées ont continué à maturer, à se réaliser en période de fermeture, en période de Covid. Ça a été une période de réflexion importante aussi. Donc beaucoup de lieux ont continué à s'ouvrir. Il y a beaucoup d'annonces encore aujourd'hui, encore sur le salon. Il va y avoir quelques annonces intéressantes de nouveaux lieux, de nouveaux concepts qui vont ouvrir. Aujourd'hui, c'est... Si on revient sur l'immobilier vraiment purement commercial, aujourd'hui c'est difficile de trouver un centre qui ouvre, un espace qui ouvre, sans avoir une partie, un certain pourcentage consacré aux offres de restauration et puis aux loisirs, multi-thèmes. Donc aujourd'hui, oui, c'est tout à fait un développement vraiment à haut niveau. La crise a clairement fauché un élan qui était en train de se prendre. Ça reste une dynamique et un mouvement qui est plutôt jeune, finalement. Donc beaucoup s'y sont lancés. Beaucoup ont changé de métier pour ouvrir un escape game, une salle de sport. Donc c'est intéressant aussi pour ça. Il y a encore peu de recul, mais beaucoup de gens se sont lancés là-dedans. Ça a été difficile parce que beaucoup de gens ont dû fermer. Certains ne s'en sont malheureusement pas relevés. D'autres ont continué, ont réfléchi et ont essayé d'apporter une autre approche. Le Covid, les fermetures, les restrictions de jauge également, le fait d'avoir à opérer avec moins de monde, a peut-être essayé de pousser les gens à s'intéresser sur est-ce qu'on peut faire autrement, est-ce qu'on peut faire mieux, est-ce qu'on peut améliorer la qualité. La question des créneaux de réservation, par exemple, c'est clairement une thématique Covid, on va dire, avec je suis limité, comment je transforme cette contrainte en atout pour éviter le pic du samedi après-midi où il y a trop de monde, où les gens trouvent ça bruyant, où on ne trouve pas de place sur les activités. J'organise mes créneaux et peut-être que je vais en gagner quelque chose. Donc ça a été un élément intéressant sur ce gain en qualité.
Est-ce que vous pensez que ce sont des réflexions qui vont se poursuivre à l'avenir? Vous parliez des créneaux de réservation qui sont dus à des jauges qui sont obligatoires dues au Covid. Un jour, je l'espère, on l'espère tous, il n'y aura plus de Covid. Ces jauges disparaîtront. Et qu'est-ce qu'on fera lors de toutes ces nouvelles bonnes habitudes?
Je pense que le plus important sera de vraiment connaître son public. Je pense que c'est vrai dans toutes les disciplines, toutes les dynamiques, de connaître le public, ses habitudes. Si le public a gagné en qualité d'expérience et s'il a pris l'habitude de réserver un créneau avant de venir, ça restera parce que finalement, ce qui est vraiment visé, c'est que le public passe un bon moment. On a commencé à le voir même dans des lieux aussi ouvert que des piscines, on a pu commencer à avoir des réservations de créneaux et peut-être qu'au bout d'un moment, la piscine, personne n'aime quand il y a plein de monde dans sa ligne d'eau et qu'on se touche et que alors finalement, quand on a pris l'habitude de réserver et qu'on sait qu'on va obtenir une heure de nage beaucoup plus confortable, on prend le pli et finalement, il n'y a pas besoin de revenir en arrière, même si la contrainte qui avait généré le créneau au début n'est pas là, n'est plus là. Donc ça peut tout à fait rester si l'expérience qui est apportée est à la hauteur et si le public est prêt à continuer son habitude. Mais ce sera certainement du cas par cas. Mais ça peut tout à fait rester parce que je pense que ça peut améliorer. Oui.
Donc si je vous suis bien, si je vous comprends bien, c'est en quelque sorte un mal pour un bien qui va permettre ou qui a permis de remettre l'accent sur l'expérience client?
Je pense que ça l'a accéléré. On l'a beaucoup dit sur cette crise, ça a accéléré beaucoup de choses. Je pense que ça l'a accéléré aussi pour le loisir. Beaucoup de parcs avaient commencé à faire ça. Alors si on sort un petit peu des villes mais qu'on regarde ce qui se passe à l'extérieur, la gestion des flux a toujours été une grande expertise de ces grands lieux d'attraction. Les parcs où dizaines de milliers de personnes viennent à la journée pour faire des activités ensemble sur un même lieu limité. Donc forcément, il y a de la gestion de flux. Il faut organiser les files d'attente, les restaurations, les boutiques. Donc ces parcs-là, bien avant la crise, avaient déjà commencé à voir comment améliorer un petit peu ça. Et finalement, la crise les a forcé à aller un peu plus vite et à plus généraliser ce type de choses. Mais ce n'est pas forcément une nouveauté, mais plutôt une accélération. C'est plutôt ça.
Comment est-ce que vous imaginez le futur du loisir ? Est-ce que vous avez l'impression qu'on se dirige vers un type de loisir qui sera un peu plus plébiscité qu'un autre ? Est-ce que c'est des loisirs qu'on va plutôt faire en famille le week-end ou alors plutôt pour vivre une expérience et sur la journée ? Comment vous voyez les choses ?
Je pense que les bons loisirs sont ceux qui arrivent à s'adresser au plus de monde possible, notamment sur les loisirs vraiment au cœur des villes. Les villes, c'est toujours difficile d'y trouver une place. Les loyers sont chers, les surfaces sont limitées. Donc il va falloir être extrêmement précis, extrêmement pointu dans l'offre qu'on va proposer. Est-ce qu'on vise un public bien défini, auquel cas il faut être sûr d'assurer sa fréquentation avec que ce public-là ? Ou alors est-ce qu'on est un petit peu plus vaste, un peu plus large ? Est-ce qu'on s'adresse également aux entreprises qui vont venir peut-être le mardi matin, un créneau où naturellement le grand public ne va pas forcément être présent en vacances ? Donc cette question du public va être importante pour toute définition des lieux, surtout s'ils veulent exister vraiment au plus proche des cœurs de ville, au plus proche du public, sans forcément générer un long trajet pour y aller. Donc ça, vraiment, c'est ce côté multi-expérience. Ensuite, le fait d'avoir plusieurs activités sous un même toit est intéressant parce que c'est aussi une capacité d'évolution. Le grand modèle classique des parcs d'attractions, c'est la nouveauté régulière qui revient à chaque année. Tous les deux ans, on crée une nouveauté. Un lieu, un loisir, entre guillemets, qui est un petit peu entre ces quatre murs, il ne peut pas forcément les pousser pour mettre du nouveau. Donc, il va falloir un petit peu réfléchir à tout ça. Et donc, plus on propose d'activités, plus on a cette capacité un petit peu de mobiliser... de retirer une pour créer autre chose, de réfléchir, d'observer son public. Donc ça aussi, c'est un élément important. Ensuite, c'est aussi lié aux questions des projets urbains dans leur globalité. Aujourd'hui, le développement urbain va plus s'orienter sur les friches, sur des bâtiments ou des zones qui sont déjà aménagées, déjà urbanisées, de manière à limiter très fortement l'imperméabilisation des sols, qui est aussi une vraie problématique pour l'extension des villes, créer des routes, des parkings, des centres commerciaux, d'autres types d'activités, des entrepôts logistiques aussi. Ça crée beaucoup, beaucoup de problématiques vis-à-vis des terres agricoles et des terres naturelles. Donc on va aussi certainement créer de plus en plus d'activités, de lieux qui vont justifier de renouveler le devenir d'une friche, d'une zone un petit peu désertée. Et ça aussi, c'est... le loisir comme outil, comme levier de redynamisation, quelle que soit sa forme, parce que je pense qu'aujourd'hui, on peut être ouvert à toutes les formes, c'est encore beaucoup trop jeune comme démarrage pour privilégier une forme plutôt qu'une autre, mais toutes ces formes seront au service de ces évolutions de quartier, agiront comme levier pour attirer du monde, pour changer l'image, montrer qu'on est dynamique, et en sortir un quartier, un aménagement, une zone, un territoire qui en sorte meilleur. Je crois beaucoup à ça.
Une dernière question pour vous, Vincent. Vous avez déjà fait un tour de ce MAPIC ce matin. Est-ce qu'il y a une innovation, un projet en termes de loisirs qui a retenu votre attention ?
Question.
Pas facile.
Question piège. Question piège. Parce qu'après, on va mettre des messages. Non, je pense que c'est important d'aller voir, d'aller tous les voir, de comprendre ce qu'il y a derrière, les gens qui le font. Pour en citer quelques-uns, j'aime beaucoup les tyroliennes et notamment les tyroliennes sur rail. Il y en a une en démonstration là-bas. On n'est plus sur une ligne droite avec juste un câble et un mousqueton et une petite roulette. On est sur un truc qui va un peu plus loin, un vrai rail tubulaire où on peut voir des virages, des descentes. Et ça permet, étant un grand fan de montagne russe, ça permet de miniaturiser un peu la montagne russe et de l'installer, enfin, le principe, et de l'installer au plus proche dans des espaces clos, en toiture, au plafond. Donc ça, c'est une innovation que j'aime beaucoup, que j'aimerais voir arriver. J'aime bien les éléments interactifs, les jeux, on va à un mur, une projection, et puis on va viser des cibles. C'est une manière de faire du sport tout en s'amusant, en partageant quelque chose à plusieurs. Donc j'aime bien ces dynamiques-là. Et puis, c'est à peu près ça. C'est tout ce qui va conjuguer à vivre quelque chose ensemble, à partager quelque chose, des émotions, des sensations. Donc là, c'était deux exemples comme ça. Mais voilà, tous les opérateurs, les exposants sont intéressants à voir parce qu'ils ont tous quelque chose d'intéressant à proposer. tout seul ou en collectif. Et voilà, c'est vraiment un conseil à ça, c'est d'aller regarder, d'aller observer, se faire plaisir, rêver un petit peu, puis d'aller discuter avec tous les exposants qui sont là pour comprendre comment ça marche.
Merci Vincent Philippe. Alors le temps est écoulé, mais si vous le voulez bien, je vais vous prendre à partie devant nos auditeurs pour vous demander de revenir très bientôt nous parler du loisir comme outil de redynamisation du territoire.
Avec plaisir.
Je pense que c'est une question dont il faudra qu'on fasse le tour. Merci beaucoup
tout
en tout
fait.
Cas. Je rappelle
Merci
que vous êtes le fondateur de Funfair City, l'observatoire du loisir en ville. Merci à vous.
Merci.
Le MAPIC, le salon international de l'immobilier commercial. Du 30 novembre au 2 décembre 2021 au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec TK Elevator sur Radio Immo.